Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir Abbeville, une ville de 22 000 habitantes et habitants de la Somme qui œuvre pour le logiciel libre. Également au programme, G nous fera part de son humeur du jour sur les événements libristes et nous parlerons avec lui de la sortie de son premier jeu vidéo, Superflu Returns. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Isabelle Avani, accompagnée de notre toute nouvelle recrue en formation pour la régie, Boukinette.
Bonjour Étienne, bonne émission.
Merci et nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose chaque mois son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G.
Salut.
Alors il m'a semblé comprendre qu'aujourd'hui tu allais nous parler des événements libristes.
C'est ça. Alors salut à toi public de Libre à vous. Alors pour commencer en fait j'ai une confidence à faire. Cette semaine pour ma chronique, j'avais rien. Si, si, hein, je t'assure, ça me gêne de l'admettre, mais ce week-end encore, j'avais mon éditeur de texte ouvert, et paf, page blanche. Bon, faut dire que je sors d'une période de boulot assez intense, hein, car hier je sortais mon premier jeu vidéo, Superflu Returns, et comme j'ai tout fait tout seul, à la fin, je faisais des journées à rallonge et j'avais un peu de mal à penser à autre chose. Malgré tout, il était hors de question que j'arrive à cette émission la gueule enfarinée, comme Frédéric Becbédé à France Inter, en mode « Ah bah aujourd'hui j'ai rien, il y a mon chien qui a bouffé ma chronique ». Et quand je dis gueule enfarinée, c'est bien sûr au propre comme au figuré. Bref, pour trouver l'inspiration, je me suis dit que j'allais faire une humeur joyeuse, pour une fois. Le retour des beaux jours, la sortie de mon jeu, la sortie du dernier Zelda aussi, sur lequel j'ai déjà passé un certain nombre d'heures, tout ça me met plutôt de bonne humeur, alors autant en profiter. Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon amour pour les logiciels libres, évidemment, mais je dois préciser quelque chose. Autant ce qui m'a fait venir aux logiciels libres, ce sont les logiciels, oui, autant ce qui m'y a fait rester, ce sont les gens. Car quand on dit que le logiciel libre est communautaire, on a parfois tendance à penser simplement à la communauté en termes de développement, un logiciel développé à plusieurs. Mais la communauté, c'est aussi tout simplement des gens qu'on croise, qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on aime retrouver, avec qui on aime aller boire des coups ou refaire le monde. Et l'endroit le plus indiqué pour ça, c'est l'événement libriste. Ou appelle ça un festival ou des journées du logiciel libre, peu importe. En général, un événement libriste, ça se matérialise de la façon suivante. Quelques jours, souvent un week-end, où les associations et parfois les petites entreprises du libre se rassemblent, présentent leurs travaux sur des stands et dans des conférences plus ou moins techniques. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais on peut par exemple parler du Capitole du Libre qui se déroule à Toulouse en automne, ou des journées du logiciel libre à Lyon au printemps. Et personnellement, j'ai fait le compte, et depuis que je suis tombé dans la marmite du logiciel libre en 2009, j'ai participé à pas moins de 16 événements de ce type. Oui, je sais, Étienne, toi t'en fais 16 par an, mais toi c'est ton boulot, c'est pas pareil. Non, et moi je me souviens encore avec émotion de mon tout premier événement libriste, c'était à l'été 2011 à Strasbourg. Un événement aujourd'hui malheureusement disparu, mais qui était alors un moment fort pour les libristes, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, ou RMLL de leur petit nom, ou Remeleleu de leur autre petit nom. Alors, Rencontre Mondiale, c'était un peu exagéré. Sur 18 éditions, il y en a eu 16 en France, une en Suisse et une en Belgique. Donc plus européenne et francophone que mondiale, mais bon. N'empêche, moi j'avais 22 ans à l'époque, et pour un tout jeune libriste tout fier de son Ubuntu avec son bureau Compiz en 3D, c'était quelque chose. Mettre enfin des visages sur tous ces pseudos croisés en ligne, rencontrer des gens de Framasoft, de l'April, de la Quadrature du Net, faire le plein de stickers pour décorer son ordinateur jusqu'à ce que, couche après couche, la coque n'en soit même plus visible, vérifier que oui, Benjamin Bayard porte bien des cravates Looney Tunes, même dans la vraie vie, et vérifier que oui, Richard Stallman fait bien exactement la même conférence depuis 40 ans. Bon, c'était avant qu'il soit cancel, hein, évidemment. Non, et puis c'était émouvant de voir tous ces gens comme moi, là, tiraillés entre leur envie d'aller porter la bonne parole du logiciel libre au plus grand nombre, et leur introversion maladive qui les pousse à se planquer derrière un écran d'ordinateur dès qu'un visiteur ou une visiteuse croise leur regard. Je plaisante, hein, mais qu'à moitié. Moi, la communauté du libre, elle m'a aussi mené à ma première expérience associative avec Framasoft, et mine de rien, je pense que cette expérience associative a beaucoup joué dans mon passage à l'âge adulte. Ouais, ouais, carrément. Parce que moi, adolescent, j'étais plutôt dans ce tempérament cynique branchouille, vous voyez. De toute façon, le monde, c'est de la merde, et les gens, c'est des cons. Et on peut le dire, la communauté du libre m'a réconcilié avec l'humanité, hein, rien que ça. Alors, je suis pas devenu béat d'optimisme. Je grommeule encore régulièrement « monde de merde » comme George Abitbol. Mais je me dis aussi que quand on se rassemble avec des gens de bonne volonté, bah on peut faire des trucs chouettes. Bon, parfois, c'est sportif. Hein. On est plusieurs à se souvenir du gros bull des RMLL de Montpellier en 2014. À Framasoft, on s'était retrouvé à 10 personnes pour 5 lits simples, à peu près. Bah, il a fallu jouer à Tetris pour tout se tenir. Et puis alors, des fois, pendant ta conférence, c'est le câble vidéo qui marche pas. Ou alors il y a juste une entrée VGA sur le projecteur et toi t'as que du HDMI. Ah, et puis tu dois gérer les questions du public après ta conf avec Jean-Michel Vétéran. Oui, moi déjà en 95 sur Slackware. Oh, ça va, j'en ai. Puis aussi ce mec là, toujours le même, qui chope un micro pour dire « Alors moi, t'es pas une question, mais plutôt une remarque. Mais va faire directement une conf et arrête de squatter la mienne. » Bon, ça, il faut aussi admettre que c'est symptomatique d'un problème un peu récurrent sur ce genre d'événement, l'entre-soi. Ouais. En théorie, on organise des événements libristes pour faire la promotion du logiciel libre au plus grand nombre, mais c'est pas toujours un succès. Et il faut dire que quand l'événement est en centre-ville, ça va, mais quand il est sur un campus à Perpète-les-Oies complètement déserté le week-end, hein, on se retrouve vite à faire des confs pour les potes des autres assos. Alors c'est sympa, hein, mais ça tient plus de la soirée VIP entre initiés que de la foire populaire. Heureusement, j'ai l'impression qu'on gère ça de mieux en mieux, en assumant d'une part ce côté événement entre potes, dont on a besoin, je pense, et en essayant d'étendre un peu la portée de nos actions, notamment en sortant du technocentrisme des conférences pour aller vers des questionnements plus larges et, disons-le, plus politiques. Ainsi, je me souviens d'un thème au JDLL, les Journées du Logiciel Libre de Lyon, il y a quelques années, qui était « Utopie concrète et accessible ». Ah, ouais, non, quand même, ça a une autre gueule que « Quelle nouveauté dans le dernier Firefox et quel logiciel libre pour faire sa compta ?» Non, non pas que les confs techniques soient inintéressantes, hein, mais c'est toujours bien d'étendre un peu les horizons. Parce que le logiciel libre a peut-être une part technique importante, mais ce qui fait qu'on le distingue parfois de l'open source, c'est l'aspect projet de société. Au-delà du logiciel, on veut, quelque part, à notre modeste échelle, un peu changer le monde. Et pour changer le monde, mine de rien, il faut déjà se mettre d'accord sur la façon dont on veut le changer. Et pour ça, bah, on n'a pas encore trouvé mieux que de se rassembler, de discuter, de boire des coups. Pas forcément alcoolisé d'ailleurs. Bref, nos petits événements libristes modestes et sympas, bah c'est aussi ce qui nous permet de faire le plein d'énergie, de se sentir moins seul, d'avoir la sensation d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Et dans ce monde de merde, et bah c'est pas rien. Je ne peux donc pas conclure cette chronique sans vous signaler un événement libriste qui arrive ce week-end et auquel j'aurai le plaisir de participer. Ça s'appelle Entrée Libre, ça se passe à Quimper du jeudi 18 mai au samedi 20 mai. Viens des nombreux et nombreuses, moi ce sera mon premier événement libriste en Bretagne et j'ai déjà hâte de retrouver tous les potes. Bonne semaine et surtout bon week-end prolongé aux personnes qui ont la chance de faire le pont et salut.
Merci beaucoup, Jay. Alors, je ne sais pas si à l'antenne, vous avez entendu les rires de la régie passer à travers la vitre insonorisée, mais c'est vrai qu'on, comme d'habitude, ton humour percute bien. Merci beaucoup. Puis tu vas rester avec nous, parce qu'on va faire une pause musicale. Mais juste après, nous allons parler de ta toute nouvelle production que tu as évoquée en début de chronique, le jeu vidéo Superflu Returns. Nous allons écouter Allons voir par Demi-Sey, ou Allons voir au cercle circassien. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter « Allons voir » par Demi-Sel, disponible sous licence Creative Commons, art libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Alors d'habitude, nous écoutons effectivement, nous proposons un sujet long dans en termes de deuxième sujet, mais Di, puisque tu es avec nous, on va directement enchaîner sur notre interview. Alors tu es partie des chroniqueurs de l'émission, on rappelle d'ailleurs à chaque fois que tu es l'auteur du blog BD Grisbouille, tu as déjà participé à des sujets longs, tu en as même préparé un sur Aaron Schwartz. Sans doute que les personnes qui nous écoutent te connaissent donc maintenant assez bien, mais peut-être que ça vaut quand même le coup que tu prennes la peine de te présenter et notamment que tu nous dises peut-être le choix professionnel que tu as fait maintenant il y a un peu plus d'un an, qui te permet aussi de venir nous proposer des chroniques et qui t'a permis de produire ton premier jeu vidéo.
Ça fait même quasiment 2 ans maintenant.
Quasiment 2 ans, Mathieu.
Donc moi, je suis développeur informatique de formation. Enfin, je suis même docteur en informatique. J'aime bien dire conventionné 42, parce que quand les gens demandent « Y a-t-il un docteur dans la salle ?» Oui, mais pas en médecine. Il y a 2 ans de ça, en fait, j'ai décidé de quitter mon boulot pour faire auteur à plein temps, parce que ça fait... Maintenant, ça fait presque 14 ans, je crois, que j'ai commencé à faire de la BD sur Internet. À l'époque, c'était le dictionnaire. Bah oui, je parlais du fait que j'étais tombé dans la marmite en 2009, c'est ça, donc 14 ans. Et c'était après le Covid, en fait, où, comme un peu tous les gens comme moi qui avaient un boulot en télétravail et relativement bien payé, puisque moi, j'étais ingénieur en informatique, j'avais mis pas mal de sous de côté et je me suis rendu compte que j'aimais bien ne plus me faire 1 heure de bouchon tous les matins et tous les soirs. Et que finalement, ce mode de travail me plaisait bien. Et comme j'avais pas mal d'épargne, je me suis dit, si c'est peut-être le meilleur moment pour tester ça. Comme ça, je sais que j'ai un filet de sécurité et que si jamais ça marche pas, parce que auteur, c'est sympa, mais c'est très dur de dégager un revenu avec. Je me suis dit, je prends pas trop de risques. Ce projet, donc Superflux Returns, donc, qui est un jeu vidéo, c'est un peu c'est ce que je disais dans l'article que j'ai publié hier pour présenter le jeu. C'est la première fois en fait que je mets vraiment toutes mes compétences au service d'un unique projet, puisque il y a une grosse part de programmation, il y a beaucoup d'écriture parce que c'est un jeu vidéo d'aventure, donc avec beaucoup de dialogue, tout ça. J'ai fait tous les graphismes aussi, j'ai aussi fait la musique parce que je fais de la musique, et voilà. Et le fait d'avoir tout fait comme ça, alors c'était fatigant, mais c'est aussi extrêmement satisfaisant, quoi, sur la fin.
Entendu. Donc là, je pense que tu as déjà dressé un beau portrait général de ce qu'est Superflux Returns. Bon, la première question, et je pense que je suis pas le seul à me la poser, c'est comment est-ce que ça se prononce? Est-ce qu'il faut probablement prendre son bon gros accent français, Superflux ouais. Returns?
C'est exactement ça. J'ai mis du temps avant de trouver un titre, hein, parce que techniquement, c'est la suite d'une BD que j'avais publiée il y a quelques années qui s'appelle Superflux, enfin Les Aventures Inutiles de Superflux, qui est donc un super-héros qui ne sert à rien, comme son nom l'indique. Et quand j'ai fait ce jeu, je me posais la question. Alors au début, c'était Superflux le jeu ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait à la fois donner la sensation que c'est une suite de super-héros, et en même temps, je veux pas que les gens qui ont pas lu la BD n'aient pas envie d'y jouer, parce que en fait, il y a pas besoin d'avoir lu la BD pour y jouer. C'est le même univers, mais c'est pas complètement lié. Et c'est vrai que du coup, t'as pas mal de films comme ça. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Batman Returns, qui en français a été traduit par Batman le défi, parce que on aime bien
on aime bien traduire différemment.
Ouais, voilà. Et je me suis dit, du coup, Superflux Returns, mais en le prononçant vraiment à la française, c'est-à-dire allons-y complètement, et je l'ai écrit du coup en phonétique, hein, donc parce que là on est à la radio, mais ça s'écrit Returns, donc Returns, vraiment. Et j'en ai fait une version anglaise pour laquelle du coup je l'ai appelé donc Superfluous, parce que la traduction de Superflu existe en anglais et c'est Superfluous, donc c'est pratique parce que ça fait aussi nom de super-héros. Et j'ai juste mis Returns avec un Z à la fin. Je me suis dit, on garde l'aspect un peu idiot, quoi, du personnage avec cette façon de prononcer. Bon, sauf que cette fois c'est le mot anglais, quoi, Return.
Donc t'as commencé, alors il est sorti le 12 mai, on peut peut-être
le
déjà...
15,
le 15 mai, d'accord, ok. Non, le 12 mai c'est un autre jeu effectivement qui est sorti, Zelda, pour le nommer, sur lequel je n'ai personnellement pas encore passé plusieurs heures, mais je pense que ça viendra plus tard dans l'année. Donc tu as dit que c'était un jeu d'aventure, qui se passe dans, voilà, dans, en campagne, la campagne profonde française, si ouais, j'ai bien suivi. Il n'y a pas besoin de, d'avoir lu la BD. Est-ce qu'il y a quand même des, peut-être des, pour les personnes qui sont déjà, enfin, qui sont déjà, qui ont déjà lu la BD, il y aura des clins d'œil vers.
Ah oui, ça, par contre, effectivement, bah, notamment au niveau des personnages, donc bon, il y a Superflu, donc qui est le héros, encore que, est-ce que c'est vraiment le héros? En tout cas, c'est le personnage central. Celle qui serait plutôt l'héroïne, en fait, c'est donc c'est un personnage féminin qui s'appelle Sophie et qui est le l'assistante de vie en fait du de Superflu. Alors la BD justement commence comme ça en fait, c'est-à-dire qu'elle arrive dans ce grand manoir parce que c'est un milliardaire où elle est envoyée par Pôle Emploi, donc elle est assistante de vie, elle cherche du boulot. Assistante de vie, c'est pas un boulot facile. Et là, elle se rend compte qu'en fait ce type-là a embauché une assistante de vie, mais pour jouer le rôle de Alfred en fait dans Batman, c'est-à-dire pour être son assistante de super-héros. Et donc elle comprend qu'elle va devoir supporter les idioties de son employeur. Donc ces deux personnages-là reviennent. D'ailleurs, au départ, on contrôle Sophie. En fait, au fil de l'aventure, on va contrôler soit l'un soit l'autre. Et il y a d'autres personnages qui reviennent, le méchant par exemple, qui est un petit adolescent un peu teigneux, qui s'appelle, dont le nom de super méchant est superficiel, donc il est très superficiel, hein, comme certains adolescents. Et puis voilà, après je sais plus, il y a le capitaine aussi de la gendarmerie, parce que c'est un petit village, mais il y a quand même une petite gendarmerie avec un capitaine qui forcément est le représentant de la loi officielle, et qui donc... passe son temps à expliquer à Superflu que non, il n'a pas le droit d'aller tabasser les super méchants, surtout quand les super méchants sont des adolescents qui n'ont pas fait grand-chose.
Alors comment ça se passe le jeu? Je crois que c'est un point and click, et je vais te laisser peut-être expliquer ce qu'est ce type de jeu.
Ouais, c'est alors je sais pas si je crois que la traduction française c'est pointer et cliquer tout bêtement, mais ça se dit pas trop. Point and click, c'est un type de jeu qui a été très populaire dans les années 90. C'était il y a une boîte qui s'appelait LucasArts, donc qui était la boîte de George Lucas, mais pour les jeux vidéo, qui avait sorti pas mal de jeux qui sont devenus très très populaires et qui sont un peu cultes aujourd'hui. Donc les plus connus, je pense que c'est Monkey Island, Day of the Tentacle, moi c'était un que j'aimais beaucoup. Il y en a eu un qui était génial, qui était tiré d'Indiana Jones, que beaucoup de gens considèrent comme le vrai Indiana Jones 4 à la place du film, parce que c'était vraiment un super jeu. C'était Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide, excellent. Et c'est des jeux en fait qui se jouent complètement à la souris. Alors même si moi j'ai fait d'autres modes, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'idée c'est que vous êtes sur une scène et vous avez des objets sur lesquels vous pouvez cliquer, vous pouvez prendre des objets, vous pouvez combiner des objets, vous pouvez parler avec des gens, avec des dialogues, vous avez des choix, le choix de ce que vous allez dire qui déclenche certains événements. Et en fait, vraiment tout le jeu se passe juste comme ça. Et moi, dans les choses que j'aimais bien dans les LucasArts, c'est que j'ai repris, il y a deux choses principales. Déjà, il y a l'humour, parce que c'était des jeux qui étaient la plupart du temps assez marrants, à part peut-être le Indiana Jones, justement, qui était plus sérieux. Donc ça, bon, étant donné que moi, je suis plutôt un auteur humoristique, et notamment sur les bandes dessinées, c'était logique, mais voilà, j'ai pris ça. C'est pour ça que j'ai pris aussi le personnage de Superflu, qui s'y prêtait bien, je trouvais. Et l'autre chose qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est des jeux qui sont très tranquilles, c'est-à-dire que c'est des jeux où on peut pas perdre, on peut pas mourir. Et on peut pas rester coincé, parce qu'il y a eu des jeux d'aventure comme ça où on prenait des objets et en fait quand tu arrivais à la fin t'avais besoin d'un objet qu'il fallait prendre au niveau 2, mais bah tu l'avais pas et du coup t'étais coincé. Et LucasArts ont toujours, enfin très vite mis un point d'honneur à ce que les jeux, ce genre de choses n'arrivent pas. C'est assez simple à faire, c'est juste au moment de designer les différentes énigmes, bah, il faut faire en sorte qu'on soit sûr qu'au moment A vous avez vraiment tous les objets dont vous avez besoin. Et du coup la seule difficulté, puisqu'on peut pas mourir, on peut pas perdre, on peut pas être coincé, bah aller juste dans la résolution des énigmes. En fait, on peut vraiment des fois rester bloqué des plombes parce qu'on comprend pas ce qu'il faut faire, ou on a compris mais on a loupé une subtilité, mais par contre sinon à part ça, je trouve que c'est des jeux tranquilles, c'est vraiment des jeux auxquels on peut jouer en buvant un café, quoi. C'est pas des jeux où faut tirer partout, où faut avoir des réflexes, quoi.
Et qui permettent, j'imagine, de bien développer aussi un univers que t'avais envie de pouvoir étoffer. Ouais,
ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose que j'avais dit, alors ça fait un peu mec qui se jette des fleurs, hein, mais en fait, il y a quelques temps, j'étais en plein dans le développement, et il y a certains niveaux que j'avais écrits il y a des mois, en fait, hein, parce que je suis passé 3 ans et demi dessus, hein, en tout, et où j'avais écrit notamment plein de dialogues, parce que ça, c'est un truc qui prend du temps, mais comme vous avez des dialogues, vous avez des choix, en fait, tous les choix mènent à des branches de dialogues différentes, et il faut, mine de rien, il faut écrire un paquet de trucs. Et du coup, j'avais fini des niveaux où j'avais enfin créé les graphismes des niveaux que j'avais écrits il y a des mois, et en fait, au moment où je le teste, du coup, je lance le dialogue et je m'en souvenais plus, mais je me suis fait marrer tout seul en relisant les dialogues. En fait, c'est, je disais ce truc, je suis con quand même. Et voilà. Et du coup, oui, c'est quelque chose que j'ai dit en fait quand j'ai fait la promotion du jeu. Mais je pense que je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le jeu. Mais je pense que la partie la plus drôle, et les gens qui l'ont testé, je pense, sont d'accord, c'est les dialogues. Je pense que les dialogues, c'est probablement ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Et donc, oui, ça permet de vraiment de développer notamment le. les relations entre les personnages et le fait que Sophie est là parce que c'est une salariée et qu'elle choisit pas ses tâches comme à peu près tous les salariés.
Du coup, c'est ce que on sait. Voilà, t'as une sensibilité politique assez marquée. Ouais. Elle se ressent dans le jeu pour toi. Est-ce que tu as voulu qu'il y ait cette
un petit peu. Alors c'est marrant parce que Superflu, c'était pas forcément la partie la plus politique dans ce que je faisais parce que c'était vraiment l'humour absurde du super-héros. Mais le fait qu'il soit milliardaire et qu'il emploie sa fortune à faire des bêtises comme ça, forcément, il y a un moment où t'es obligé de politiser un peu le truc. Donc oui, il y a ce que j'appellerais l'humour de gauche, c'est-à-dire que celui qui est toujours le dindon de la force, c'est toujours lui, c'est toujours le riche. On lui rappelle assez régulièrement qu'il a vraiment rien d'autre à foutre de son pognon qu'il est vraiment inutile, comme son nom l'indique, quoi.
Alors, tu as dit, hein, tu me l'as dit, tu as fait le dessin, la musique, c'est toi qui as développé le code, ainsi de suite. C'était quoi pour toi le plus grand défi dans tout ce travail de conception ?
Alors,
ça peut être un truc très précis, hein, sur un truc que t'as.
Alors en fait, déjà de faire au niveau du code, en fait, c'était de faire un logiciel aussi abouti qui fonctionne bien, sans bug, tout ça, parce que moi j'étais développeur professionnel, donc je bossais sur des logiciels professionnels, mais moi je bossais sur des morceaux, quoi. Quand on a un gros logiciel, on a beaucoup de monde qui bosse dessus. Faire quelque chose en entier comme ça, c'était un peu un défi. Après, ce qui m'a pris finalement le plus de temps, je pense que c'est les graphismes, et notamment les animations. Parce que les animations, je les fais à la main, un peu à l'ancienne, en fait, même si je fais des copier-coller, il y a des choses qui bougent, voilà, on a quand même des bons outils pour faire ça. Mais c'est vrai que je les fais, c'est du 12 images par seconde, comme les Looney Tunes. Hein. Et ça, c'est pas tant que c'était dur, mais c'était long. Le jeu est pas si long, finalement, il se finit entre 4 et 6 heures, selon les gens qui l'ont bêta-testé. Mais voilà, des fois, je me souviens vraiment, j'avais passé comme ça 4 heures comme ça, toute une après-midi sur une animation, et à la fin, je fais, ah, elle est super jolie, mon animation, je la joue, et elle faisait 5 secondes, quoi. Et ouais, c'est un petit peu. C'est pas frustrant, parce qu'à la fin, moi, j'étais super fier du résultat, mais c'est long, quoi.
C'est pour ça qu'en général, les gens ne font pas des jeux vidéo tout seul, ouais. Mais voilà, c'est grandes équipes. Alors, le temps avance, mais il y a quand même aussi une question importante. Tu publies beaucoup de créations sous licence libre. Pour ce jeu, je pense que tu t'es posé la question, t'as arrivé à une conclusion pour moi. Enfin, tu vas rentrer dans les détails, mais pour le moment, c'est pas tout à fait un logiciel libre, même s'il y a des parties qui le sont. Et je crois que tu as l'intention, dans un temps plus tard, de le rendre libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, alors au départ, je comptais en faire un logiciel libre. En fait, c'est vrai que tout ce que je publie depuis que je suis sur Internet est sous licence libre, il n'y a vraiment pas d'exception. Et c'est vrai que c'est la première exception. En fait, honnêtement, ça c'est venu d'une peur, on va dire, c'est que je disais tout à l'heure que voilà, j'étais devenu auteur à 100% en essayant d'en dégager un revenu. Le fait est que ça va faire 2 ans et que pour le moment, je suis toujours en train de creuser dans mon épargne et qu'elle n'est pas infinie. Donc, plus je creuse et plus je vois le fond qui se rapproche. Et c'est vrai que je compte beaucoup en fait sur ce jeu pour éventuellement apporter un revenu, parce que sinon, c'est vrai que je vends. Bon, j'ai du financement participatif qui me rapporte un petit peu, ça c'est pas mal. Et sinon, le seul truc que je vends vraiment, c'est des bouquins. Mais les bouquins, ça se vend finalement assez peu. Et je me suis dit qu'un jeu vidéo, ça pouvait peut-être se vendre plus facilement. Et il y avait ce truc de se dire, ouais, mais du coup, si le jeu vidéo est sous licence libre, même si moi, j'en fournis pas d'exécutable compilé, parce que au départ, je m'étais dit ça, au pire, je donne les sources, mais je le compile pas. Bon, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le compile et qui le mette en ligne, et le jeu est disponible gratuitement pour tout le monde. Et j'avais vraiment peur, en fait, de cet effet où, finalement, la plupart des gens, d'autant plus les gens qui me connaissent, sont la plupart du temps des gens du logiciel libre, et du coup connaissent ce genre de mécanisme de licence libre. Il y en a pas mal qui savent compiler, je me dis, bon, il y en aura beaucoup en fait qui vont juste pas l'acheter, et qui vont juste profiter de la version libre qui sera gratuite. Et c'est vrai que c'est un peu cette peur qui m'a poussé à me dire, non, bon, en fait, du coup, les données pour le moment seront pas libres. Alors le moteur est toujours libre, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu, vous avez les données, vous pouvez recompiler le jeu, vérifier que je mine pas de Bitcoin sur votre ordi avec le code source, mais les données, c'est vrai qu'elles sont pas disponibles librement. C'est une entorse. Du coup, je me suis dit, bon, elles seront libérées sous licence libre plus tard. Donc, alors j'ai pas donné de date, mais raisonnablement, je pense que ce sera à la fin de l'année. Fin de l'année 2023, donc je pense honnêtement, c'est pas arrêté, mais je pense que ce sera mon cadeau de Noël. Avec la réflexion qui est soit le jeu a bien marché, et dans ce cas-là, bon, je peux libérer les données, soit il a pas marché, et dans ce cas-là, de toute façon, je pourrais plus compter dessus pour. Enfin, il faudra que je trouve une autre source de revenus qu'être auteur, donc la question se posera différemment. Donc, voilà.
Donc si, on peut aussi appeler déjà pour les personnes qui te suivent, qui écoutent tes chroniques, qui vont lire ton blog BD, c'est aussi une manière de te soutenir que d'aller acheter ce jeu.
Bien sûr.
Où est-ce qu'on peut l'acheter et sur quelle plateforme est-ce qu'on peut y jouer?
Alors, on peut l'acheter pour le moment sur Steam et sur itch.io. Donc Steam, c'est un peu le géant du marché, donc c'est la plupart des gamers, on va dire, se trouvent sur ce site. Et Itch, c'est un site qui est un peu moins connu et qui est un peu plus dédié aux jeux vidéo indépendants. Du coup, il est un peu moins bien fait aussi, notamment il n'y a pas de possibilité de mettre des traductions. Donc si vous allez sur Itch, vous allez avoir une page en anglais avec des prix en dollars. Mais sachez que le jeu, vous aurez quand même accès à la version française si vous l'achetez là-dessus, il n'y a pas de souci. Plus tard, il sera sur Google Play. Là, pour le moment, il est en cours de validation par Google. Alors oui, ça, je sais, ça me fait un peu mal de me dire que je vais chez Google. Mais voilà. Mais c'est pour pouvoir en distribuer une version Android un peu plus facilement. Et donc, ce qui m'amène du coup à la suite de la réponse. Donc, en termes de plateforme, évidemment, il est sur Linux parce que moi, j'ai développé là-dessus. Donc, je pense que c'est un des rares jeux dont la première version était sur Linux. Après Windows et Mac, Android. Sachant que si vous l'achetez sur itch.io, vous avez quand même accès à la version Android, ce qui peut être sympa si vous voulez ne pas passer par Google Play. C'est juste que là, il faudra l'installer séparément. Donc vous aurez le warning de Google. Attention, c'est dangereux d'installer des applications non vérifiées. Mais voilà, vous pouvez. Et voilà, alors théoriquement, je devrais pouvoir en faire une version iPhone, mais j'avoue que je ne me suis pas penché dessus. Normalement, ça ne doit pas être très différent d'une version Mac. Et idéalement, j'aimerais bien faire une version pour la Nintendo Switch, parce que je sais que la SDL, qui est la bibliothèque libre que j'ai utilisée pour faire ça, et porté sur Switch, donc c'est possible. Par contre, Nintendo, en termes de fermeture, c'est pire que Apple. Hein. C'est-à-dire que eux, il faut faire un dossier en expliquant est-ce que j'en ai déjà vendu, est-ce que je suis. Enfin, bon, ils veulent être sûrs qu'en gros votre jeu il serve à quelque chose avant de le mettre sur leur store et avant de vous donner accès au kit de développement. Donc, je vais attendre un peu. Mais si le jeu se vend pas mal, je pense que je ferai un dossier Nintendo pour essayer de le mettre sur Switch. J'ai fait un mode manette qui marche plutôt pas mal, donc voilà.
Entendu. Dernière peut-être question qui est très rapide, parce qu'on, c'est pour tout, on peut y jouer à partir de quel âge? Par rapport à l'humour, on sait que peut-être qu'il peut être à plus ou moins adapté à certaines catégories d'âge.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai présenté dans un festival et il y avait un petit gamin qui jouait. Et bon, je pense qu'il aimait bien parce que les graphismes sont assez enfantins, donc c'est vrai que c'est mignon tout ça. C'est vrai qu'en termes d'humour, je dirais qu'il faudrait au moins des ados, quoi. Je pense qu'à partir de 14 ans, voilà, quelque chose comme ça. Il y a rien de choquant, mais il y a un peu de grossièreté. Très peu, hein, c'est pas non plus un truc hyper vulgaire, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour sur, voilà, il y a une cliente alcoolique dans un bar PMU, bon, c'est pas des trucs que je mettrais forcément aux petits-enfants, quoi. Voilà.
Ben, merci beaucoup, moi je te souhaite le meilleur pour ton jeu, félicitations, parce qu'on imagine la montagne que ça a dû être, vraiment tu dois être fier, donc toutes mes félicitations,
merci.
Et je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Nous sommes en train d'écouter Dreamer par Johnny Grimm. Si on se retrouve dans environ 2 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Écoutez Dreamer par Johnny Grimm, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la politique et les actions d'Abbeville pour le logiciel libre. Un sujet préenregistré le vendredi 12 mai pour des raisons de disponibilité de nos invités. Même si le sujet ne sera pas en direct, n'hésitez pas à nous retrouver sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat où nous pourrons échanger. Avant d'écouter cet échange, je vais quand même corriger dès à présent une erreur de ma part dans mes propos introductifs de l'enregistrement. Abbeville n'est pas la première collectivité à obtenir le niveau 5 des labels territoire numérique libre. Cet honneur revient à Nancy, mais Abbeville est la première à l'obtenir deux fois. Je vous propose donc d'écouter cette interview et on se retrouve en direct dans un peu moins d'une heure, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles. Dans notre série de sujets consacrés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre, j'ai aujourd'hui plaisir de recevoir Cédric Charpentier et Anaïs Rémy de la direction des systèmes d'information d'Abbeville. Abbeville est une ville de 22 000 habitants située dans la Somme qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre et c'est la première collectivité à atteindre le niveau 5 des labels territoire numérique libre et nous y reviendrons. Cédric, Anaïs, bonjour, merci de me rejoindre.
Bonjour.
Alors, je vais vous proposer de commencer de manière très traditionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Ok, donc moi, je suis Cédric Charpentier. Donc, je suis le directeur des systèmes d'information de la mairie d'Abbeville. Je suis en poste dans cette collectivité depuis 2007. Par contre, j'ai un passé avant celui-là, puisque je suis rentré tout simplement emploi jeune dans la collectivité au service de l'informatique dans les écoles.
D'accord, vous n'êtes pas arrivé directeur du système d'information, mais plutôt directement dans le service d'information. Donc c'est intéressant, vous avez pu voir du coup l'évolution, on pourra d'ailleurs y revenir, mais l'évolution de ce service depuis 2007, vous avez dit ?
Oui, c'est ça, 2007 directeur et 99 dans les écoles en fait.
D'accord, ok. Donc vous avez une vraie connaissance de l'historique aussi de sur la ville, de l'historique de l'informatique de la ville et des décisions qui ont été prises. Ce sera intéressant pour notre échange.
Un petit peu ça.
Et Anaïs, qu'en est-il de vous ?
Bonjour, donc oui, moi c'est Anaïs Rémy. Je suis dans la collectivité depuis 2018 et je suis arrivée au service informatique depuis presque 3 ans. Ouais, c'est ça, depuis 3 ans.
D'accord, je vous remercie. Une question que j'aime bien poser à nos invités, c'est quel est votre rapport au logiciel libre ? Comment avez-vous découvert le logiciel libre ? Avec une question, je pense, qui est liée, c'est votre découverte de l'informatique. Comment vous êtes formé à l'informatique ? Est-ce que tout de suite le logiciel libre a été une évidence pour vous ? Voilà, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors moi, en ce qui me concerne, très sincèrement, je vous dirais que j'en ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Parce que j'ai débuté le logiciel libre quand j'étais emploi jeune dans les écoles de la ville. Ça remonte donc, je dirais, dans les années 2000 ou 2001. Le seul souvenir que je peux peut-être vous donner, c'est qu'en fait, à l'époque, je cherchais une solution pour que les enfants puissent se connecter sur les différents postes des écoles. Et récupérer leurs données, des tas de choses comme ça. Et donc, je me suis lancé dans du Samba, Samba 3 à l'époque. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'était une centralisation des fichiers et des droits sur une machine centralisée, en fait, tout simplement.
Et puis, moi, non, je suis plutôt sur la partie administrative. Donc, je découvre l'informatique et les logiciels libres grâce à Cédric, donc voilà.
Ce que je trouvais intéressant lorsqu'on a préparé l'émission, Anaïs, si ça vous ennuie pas de développer là-dessus, c'est que vous n'avez pas une formation d'informaticienne, si j'ai bien compris.
Ah non, pas du tout. Je viens des ressources humaines, donc rien à voir avec l'informatique.
Alors, comment quelqu'un qui est aux ressources humaines se retrouve assistante du directeur de à la direction du système d'information ?
Eh ben, bonne question. je suis arrivée là uniquement pour la partie administrative, mais c'est vrai que Cédric m'apprend énormément de choses sur l'informatique. J'essaye de l'aider comme je peux sur certaines choses.
Excusez-moi, parce que je me rends compte que, et c'est propre aussi, les difficultés de langage parfois.
J'entends administratif, c'est vrai que j'entends l'administration système. Et en fait, non, vous faites de l'administratif dans le sens premier du terme. Et je vois, mais
oui,
c'est intéressant
c'est
du coup que tout en étant, et on voit parce que vous utilisez l'outil informatique, j'imagine très très bien, et ça vous permet aussi, ça vous donne des opportunités d'apprendre l'informatique à travers les outils que vous utilisez, si j'entends bien en fait.
Oui, oui, oui.
Alors, autre question en lien avec le logiciel libre, pourquoi pour vous, alors vu ce que fait la ville d'Abbeville et on rentrera dans les détails, pourquoi c'est important pour vous le logiciel libre? Qu'est-ce que ça représente? Parce que bon, on a compris que vous en faites, mais pourquoi pour vous le logiciel libre est une chose politiquement importante, notamment dans la perspective d'une collectivité?
Ça, alors on pourrait en parler pendant des heures et des heures, je pense.
On va en parler pendant une cinquantaine de minutes, ce sera déjà
très
bien.
Ouais, c'est ça. Bon, alors en fait, moi je dirais déjà parce que finalement ça reste le nerf de la guerre. Je dirais que aujourd'hui, nous, on manipule, on dépense les deniers publics. Donc déjà pour commencer, l'idée c'est pas de dépenser l'argent à tort et à travers et de faire en sorte voilà. Donc notre idée, elle est là. Alors je commence toujours par là parce que c'est le point que les gens comprennent le plus. Après derrière ça, je vous dirais que il y a une autre dimension qui est plus une histoire de philosophie en fait. En fait, on est une collectivité française finalement. Aujourd'hui, on nous parle de déficit public, on nous parle de points de PIB, on nous parle de choses comme ça. Et moi, je me dis, il est quand même préférable aujourd'hui, avec la dette que la France est là, qu'on fasse fonctionner les entreprises françaises, qu'on essaie au maximum de faire en sorte que ces points de PIB se sauvent plus vers les entreprises étrangères. Même si cela dit en passant, je ne dis pas de mal de ce que font en particulier les Américains. Ils font de très très bons produits et forcément tout ça, c'est un coût que nous on essaie de ne pas faire supporter à la collectivité et aux administrés. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est un argument, celui de bonne gestion du denier public qui vient souvent et qui est lié à la question d'indépendance, de maîtrise des systèmes d'information. Un lien que j'ai trouvé intéressant, on va revenir sur tout ça, mais que j'ai trouvé intéressant et j'aimerais bien qu'on en reparle après, c'est que vous faites avec le fait d'une entreprise française. On sait que souvent le logiciel libre travaille avec les entreprises, enfin s'inscrit dans les tissus économiques locaux. Et on pourra revenir pour voir si c'est effectivement le cas à Abbeville. Mais c'est vrai que cet argument de bonne gestion du denier public, qui en fait irrigue tous les autres arguments, revient très souvent quand on parle avec les collectivités pourquoi de leur engagement vers le logiciel libre. Et alors, on va reprendre un peu peut-être le fil de l'historique, et notamment de la place des politiques publiques vis-à-vis du logiciel libre à Abbeville. Donc Cédric, alors je me tourne vers vous, parce que c'est vous qui avez effectivement le plus, par rapport à Anaïs, un historique plus long, par rapport à une vision plus longue, on va dire, pardon, de cet historique. Vous êtes arrivé en 99 dans la collectivité, un peu plus tard, quelques années plus tard à la DSI. Est-ce que quand vous êtes arrivé en 99, il y avait déjà cette volonté de faire du logiciel libre? Elle s'est développée plus tard. Est-ce que ça a été sous votre influence ou voilà, comment le logiciel libre est arrivé à Abbeville?
Bon, en fait, alors il faut savoir que moi en 99, quand j'ai été embauché dans les écoles, je gérais l'informatique des écoles de la ville, mais j'étais complètement indépendant de la DSI ville. Ok. À la fin de mon contrat d'emploi jeune, au bout des 5 ans, en fait, il s'avère que le parc informatique des écoles de la ville, il était passé de, je sais pas, d'une dizaine d'ordinateurs à plus de 250 PC dans les écoles. Moi, j'avais déjà lancé dans mon petit coin cette démarche vers le libre. De mémoire, pour les plus nostalgiques, je dirais que j'ai commencé avec du Red Hat 5.2 et puis un truc qui s'appelait Mandriva, qui était une entreprise française. Et donc, à la fin des 5 ans, les directeurs des écoles se sont tournés vers le maire en lui disant, nous, on va avoir un problème parce que ce monsieur qui gère tous nos ordinateurs au quotidien, si vous ne le gardez pas, tout ça va tomber à l'eau. Alors, comme on pouvait pas continuer sur ce statut d'emploi jeune, c'est la mairie d'Abbeville qui m'a embauché au sein de la DSI. Quand moi je suis arrivé dans la DSI, ça va peut-être faire du mal à certaines oreilles, mais disons que c'était une collectivité pure et dure Microsoft, du Windows partout, de l'Office partout, et puis et de l'Exchange partout. Donc moi j'ai commencé à apporter un peu cette culture-là au niveau de mes collègues. Il y a eu des départs, il y a eu une opportunité et moi on m'a demandé de reprendre la DSI. Voilà. Alors comme on est dans une collectivité qui est pas forcément très très riche, et ben le fait d'amener des solutions qui permettaient d'amener de l'argent, je vous dirais que c'est un petit peu ce qui a fait basculer la collectivité en fait, hein.
Ça a été donc le premier argument, la première manière de convaincre, on va dire, peut-être au niveau des élus notamment, qui vont prendre les décisions aussi en termes de choix, d'arbitrage, etc., a été celui d'une économie sur les coûts. Parce qu'on sait que parfois le logiciel libre, c'est pas toujours moins cher dans les premiers temps, ça va plutôt être un investissement parce qu'il faut se former, etc. Mais très rapidement, il y a eu cette, vous avez su convaincre sur cette idée-là que ça coûterait moins cher dans le temps, si j'entends bien ce que vous dites.
Oui, c'est un peu ça. Alors c'est pareil. Quand vous le dites bien, en fait, quand on parle de logiciel libre, il y a deux façons de faire du logiciel libre. Première façon, c'est finalement de mettre ses mains dans le cambouis et de le faire soi-même. Dans le cas, ça, c'est des solutions qui ne coûtent rien du tout. On est d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi?
Ça coûte le prix du salaire des personnes, enfin des fonctionnaires, mais oui, effectivement.
Exactement. Et puis après, vous avez la deuxième façon qui est de dire, voilà, on va faire du libre, mais on va le faire par des entreprises. Alors, même si ça coûte de l'argent, ça c'est certain, hein, globalement, ça coûte tout de même moins cher que de faire du propriétaire. Ça, j'en suis persuadé.
Parce que le propriétaire, on le dit, effectivement, c'est un coût qui est basé sur une licence, mais on n'a pas de maîtrise du logiciel, et puis surtout, à la fin de la licence, il nous reste en fait plus rien, on ne peut pas continuer à utiliser du logiciel, on est comme sur une location. Alors que finalement, quand on investit dans le logiciel libre, qu'on le fasse développer en interne, quand on internalise les compétences ou qu'on fait appel à des compétences externes, on garde une maîtrise, et c'est là où propriétaire est un mauvais terme quelque part en français, qui a apporté du terme proprietary en anglais. C'est pour ça qu'on l'a pris, on a bien parlé du terme privateur qui remet le curseur sur la privation de liberté, mais aussi pour dire qu'en fait non, le vrai logiciel propriétaire quelque part, c'est le logiciel libre. On reste propriétaire, on garde la maîtrise du logiciel, et c'est intéressant du coup ce que vous dites par rapport à ça.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis après, c'est pareil parce que finalement, c'est une phase que j'ai tendance aussi à oublier. C'est que quoi qu'on en dise, en fait, aussi, le libre et tout ce qui gravite autour du libre, en fait, c'est un véritable couteau suisse. Moi, il s'avère que je me suis très très souvent sorti de situation très rapidement parce que dans le libre, j'ai trouvé un outil capable de faire des choses fabuleuses. Et justement, je voudrais vous parler d'un produit qui s'appelle Raspi SMS. En fait, Raspi SMS, c'est une solution libre qui vous permet d'envoyer des SMS, d'accord? Et il s'avère que nous, par exemple, lors de la Covid, on a fait une énorme campagne pour pouvoir distribuer les masques en papier et en tissu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, à nos administrés. Et en fait, si on n'avait pas eu ce fameux Raspi SMS grâce auquel on avait collecté les numéros de téléphone des gens et on avait pu les recontacter très très rapidement, et ben on n'aurait pas réussi à faire un carton au niveau de la distribution de ces masques-là en fait.
C'est un exemple très intéressant, merci de le partager, et puis je pense que ça nous rappelle effectivement une période qu'on a tous partagé une expérience assez similaire sur ces questions-là. Avant d'avancer, et parce que je pense que la prochaine question, c'est finalement comment les élus se sont finalement saisis plutôt politiquement de la question du logiciel libre, puisqu'il y a eu des stratégies politiques actées. Ça, c'est une excellente chose, parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas venir que de l'AICI ou que des élus, il faut qu'il y ait un travail en commun. Anaïs, je vous ai pas posé la question, vous avez commencé à nous dire qu'effectivement, au contact de ces Cédric, vous avez commencé à découvrir le logiciel libre. Cédric nous a dit pour lui ce que ça représentait. Vous, là, ça fait quelques temps maintenant que vous avez commencé à être... Est-ce que vous êtes, pour vous, le logiciel libre, c'est plus l'aspect couteau suisse qui vous intéresse? C'est plus les aspects de liberté et d'indépendance? C'est un tout de vos découvertes? Parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir la perspective des gens qui découvrent plus récemment, qui n'ont pas forcément un métier, enfin une formation à l'informatique, parce que le logiciel libre concerne tout le monde, et ça, on aime bien aussi le répéter.
Alors c'est plus difficile en fait.
Le but c'est pas de vous piéger, hein. C'est eh ben écoutez, de toute façon tout à l'heure j'aurais deux questions pour vous sur l'accueil des agents et comment justement sur la question de la formation. Et là je pense que vous aurez des choses à partager avec nous à ce moment-là, Anaïs. Et effectivement, Cédric étant le directeur des systèmes d'information et l'animateur, on va dire aussi de la politique logicielle libre, il est entendable qu'on vous ayez plus de choses à nous raconter. Alors penchons-nous du coup sur cette question. Alors vous avez voilà, vous avez commencé à convaincre par l'exemple de la pertinence du logiciel libre. Comment est-ce que les élus, les conseils municipaux ont commencé à se saisir de ces questions-là et à leur donner forme dans une stratégie politique?
Alors ça, les auditeurs et les auditrices qui travaillent dans notre domaine seront, je pense, tout à fait d'accord avec nous. En fait, une DSI, c'est quoi? C'est un service qui est complètement transparent aux yeux des autres, d'accord? Nous, on est là, il faut que ça fonctionne. On ne sait pas forcément ce que l'on fait et on ne sait pas forcément quelles sont nos difficultés. Du coup, vous savez, vendre l'informatique, vendre le libre au niveau des citoyens, c'est quelque chose d'un peu difficile. Et alors là, il y a un truc qui est génial qu'on a découvert il y a quelques années et dont on va parler après, c'est le territoire numérique libre. Je dirais que comment les élus ont pris en main le sujet du libre, et ben avec le label territoire numérique libre, parce que là cette fois-ci, c'est une façon pour nous de pouvoir parler de notre travail, de pouvoir parler de ce que l'on fait des deniers publics, du pourquoi on a utilisé les logiciels libres. Et je pense que si on n'avait pas participé à ce label-là, aujourd'hui, on serait peut-être même pas avec vous à l'antenne parce que on serait dans notre petit coin toujours en train de faire de l'informatique purement technique et personne n'aurait entendu parler de nous.
D'accord. Je vais peut-être saisir la balle au bon. Je pense que à ce moment-là de l'émission, il peut être intéressant de préciser ce que sont ces labels territoire numérique libre. Effectivement, c'est un label qui a été créé en 2016. Donc là, en 2023, ce sera la 8e édition. Un label qui a été créé par l'ADULACT, hein, qui est une association qui œuvre pour le logiciel libre et en particulier auprès des collectivités territoriales. L'April fait partie du jury d'attribution de ce label et ce label s'inspire du modèle par exemple des villes fleuries en attribuant sur des bases de candidatures, sur des dossiers de candidature un niveau de 1 allant de 1 à 5, 5 étant le label le plus élevé, Abbeville étant la première collectivité à avoir décroché ce plus haut niveau Donc si je vous entends bien, donc ça le label a commencé en 2016. Alors de mémoire, je me rappelle pas quand Abbeville a pour la première fois candidaté, mais vous dites qu'avant la candidature d'Abbeville, il n'y avait pas encore de formalisation de politique autour du logiciel libre, ou c'est que le label a permis d'amplifier par rapport à ce qui était déjà existant?
Disons qu'il y en avait, mais par contre, les habitants n'étaient pas du tout informés de tout ça. On s'en est, c'est malheureux de le dire, mais en fait, avant la participation au label, je dirais que l'attrait pour le logiciel libre, il était uniquement financier. Voilà, pour nos élus, c'était surtout comment gagner de l'argent en fait, comment investir autrement. Par contre, une fois qu'on s'est mis en route avec cette histoire de label, bah, en fait, il y a d'autres projets qui sont nés. Il y a d'autres. On nous a vu nous la DSI de façon complètement différente. Et c'est ça qui a vraiment beaucoup changé au niveau de nos élus.
C'est très intéressant, d'accord. Donc quand vous dites différente, c'est-à-dire qu'effectivement vous n'étiez plus seulement perçu comme un prestataire, ou enfin c'est pas forcément le meilleur terme, mais comme le prestataire technique, tant pis je vais aller avec ce terme-là, mais ça a permis de se rendre compte qu'il y avait des enjeux politiques attachés au choix informatique, si j'entends ce que vous dites.
Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Alors moi je vais le dire autrement, même si c'est pas forcément plus joli, je pense que au début en fait, je sais pas, aux yeux des élus, nous on est un peu comme des électriciens, si vous voulez. C'est, il y a plus de lumière, il y a plus de courant, il y a plus de. Donc nous on est là pour rétablir, mais derrière on voit pas forcément tout le travail et comment il est fait et comment on peut mettre en avant la collectivité à travers le libre. Et à partir du moment où le label a été intégré à la collectivité, ça a changé plein de choses.
D'accord, et je sais que vous avez un projet, on va en parler en deuxième partie d'émission, mais un projet qui est hyper intéressant et qui est tourné justement vers les habitants et les habitantes de votre commune. Avant ça, je pense que j'aime bien commencer aussi de voir comment ça se passe en interne, vos usages internes du logiciel libre. C'est toujours intéressant de voir comment voilà des DSI libristes avancent. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment, parce que vous, si je refais quelques pas en arrière, vous avez proposé et utilisé de plus en plus de logiciels. Alors, on sait que souvent, il y a tout ce qui est l'aspect serveur, etc., qui ne concerne quelque part, entre guillemets, que la DSI. Mais en revanche, là où il y a le plus d'enjeux, c'est pour les logiciels sur lesquels les agents ont la main, c'est-à-dire les logiciels métiers et puis leur poste de travail. A priori, vous avez proposé des logiciels métiers, vous avez proposé des logiciels du bureautique, même, il me semble, des systèmes d'exploitation libre. Comment ça s'est développé et quel accueil a été fait par les agents et les agentes quand vous leur proposiez ça? Voilà. Quelle méthode d'accompagnement au changement, pour reprendre le terme habituel, avez-vous mis en place?
Alors là, c'est un peu les montagnes russes finalement quand on fait du logiciel libre, parce que vous avez les pros, vous avez les contes, vous avez ceux qui sont mitigés, donc ça a été extrêmement difficile. Alors comment on a commencé? On a tout simplement commencé par la suite bureautique. En fait, il y a on remonte quand même déjà il y a une douzaine d'années. Il y a une douzaine d'années, on reçoit un courrier de Microsoft qui nous dit où est-ce que vous en êtes avec vos licences? Nous, on aimerait bien vous faire un contrôle et on aimerait bien vérifier que tout est bien en règle chez vous. Donc moi, je venais de reprendre le service. Je le dis très honnêtement, c'était pas forcément très clean ou pas très clair pour moi le nombre de licences qu'on avait dans la collectivité. J'ai eu un entretien avec le maire de l'époque, hein, qui n'est plus celui d'aujourd'hui, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, de toute façon, on n'est pas certain d'avoir toutes les licences. Il existe aujourd'hui un produit qu'on maîtrise bien, puisque c'est dans nos écoles depuis quelques années. À l'époque, c'était Open Office, hein, il n'y avait pas encore de LibreOffice. Et le maire a dit, banco, on va essayer de te tourner là-dessus. Et il m'a demandé, en fait, il me dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire passer ça à nos agents sans que ça fasse trop de misère? Alors, on était encore à l'époque où on avait des écrans à tube cathodique, là, vous souvenez de ces gros écrans, là, tout blanc, là, qui
prenait l'intégralité de la largeur du bureau, oui, je vois le genre d'écran que vous décrivez.
Voilà. Alors, nous, le deal dans la collectivité, c'était, si vous installez un open office sur votre ordinateur, eh ben, on vous mettra à disposition un écran plat. Ça a commencé comme ça, en fait. Le deal, c'était un peu ça. On a donc eu forcément quelques personnes intéressées. Et puis, on a commencé à en mettre en route de cette façon-là. Donc, ça, c'était il y a à peu près 10-12 ans.
C'est plutôt sur le logiciel bureautique, du coup, si j'entends bien.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et puis après, on avait dans la collectivité un serveur de messagerie propriétaire, je vous parle pas duquel, hein, qui, pareil, arrivait en fin de vie. Et puis, on a cherché les solutions qui existaient en libre. Et puis, on a cherché surtout une entreprise française qui serait tout à fait capable de nous apporter service et de nous dépanner en cas de souci. Donc là, je vais commencer par vous citer une entreprise française avec laquelle on travaille, avec laquelle on n'a pas de souci du tout, qui s'appelle BlueMind.
Oui, qui est une entreprise française qui fait du logiciel libre, effectivement.
Voilà, donc qui fait de la messagerie et qui le fait très très bien. Donc ça a été une solution. Alors là, c'est pareil, hein, même chose. On va pas non plus se mentir. On a fait des études, on a regardé combien nous coûterait le renouvellement de la solution que l'on avait avec la même entreprise, et on a regardé ce qui se faisait dans le libre et combien ça nous coûterait. Et on s'est aperçu que ça nous coûterait quand même beaucoup moins cher.
Quand vous parliez, vous avez déjà exprimé le fait qu'il y avait une question de bonne gestion du domaine public, et effectivement, il ne s'agit pas de dire ça de manière incantatoire, le libre c'est mieux par rapport à ça. Non, on voit, et c'est à chaque fois finalement le cas, vous êtes détenteur d'une mission de service public et vous faites les choses rigoureusement en suivant les règles et en appliquant voilà les principes. Très bien, c'est intéressant. Et du coup, Anaïs, si vous n'ennuyez pas, je me tourne vers vous. Vous êtes arrivée à la collectivité il y a quelques années. Est-ce que tout ça était déjà en place ou est-ce que vous avez vécu aussi ce changement?
Non, tout était déjà en place quand je suis arrivée dans le service.
Et vous ne connaissiez pas encore le logiciel libre. Alors, quelle était pour vous la découverte du logiciel libre en termes de pratiques, notamment professionnelles? Et est-ce que vous avez, est-ce que ça vous a mis, vous avez une réticence? Vous avez tout de suite été convaincu? Et quelle formation, peut-être vous avez vu des formations ou pas? Voilà, ça pourrait nous intéresser, je pense.
Oui, donc avant j'étais j'utilisais le logiciel propriétaire. Quand je suis arrivée, on m'a dit il y a que ça. Donc du coup, j'ai fait avec, hein, forcément, et je me suis adaptée très très rapidement à la suite bureautique sans aucun souci.
Et donc il y avait des formations prévues ou pour vous c'était simplement, la question est ouverte à vous deux, c'est par la pratique que vous êtes rendu compte, mais on sait que voilà, les habitudes, c'est des outils différents et donc comme tout outil, il faut s'y former, il n'y a pas...
Alors en fait, évidemment, la Covid, elle est venue bousculer les habitudes de la collectivité. Mais en fait, il faut savoir que nous, tous les ans, on a pour habitude de créer des sessions de formation. On a une salle de formation ici à la DSI. Hein. On a 10 postes informatiques. On prend les agents pendant 3 ou 4 jours. Et c'est 4 jours dans lesquels on refait entièrement le tour de tous les produits utilisés dans la collectivité. C'est-à-dire que le premier jour, tranquille, on revoit un peu l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur, le disque dur, comment se connecter à Internet, etc. Et puis après, on utilise LibreOffice. On va réapprendre, même si on le sait déjà, c'est pas grave, on va réapprendre à refaire un courrier à la méthode administrative, hein, avec les timbres, avec les bonnes tabulations, avec ces bonnes choses-là. Ensuite, on repart vers du tableur, donc on réapprend pour ceux qui le savent déjà, ou sinon on apprend à refaire les fonctions de base du tableur. On fait aussi un peu de sensibilisation à la cybersécurité. On consacre pendant ces 4 jours-là une demi-journée à la cybersécurité. Et puis enfin, on finit le dernier jour avec un petit peu de... J'appelle ça un pot pourri, en fait. C'est question libre. Et puis moi, j'explique à nos agents quelles sont les solutions qu'on a. Par exemple, je sais pas moi, comment retravailler des images. Et ben, je leur explique qu'il y a tel logiciel et on fait quelques petits exercices à ce niveau-là. Mais c'est un peu comme ça que l'on fonctionne. Alors depuis la Covid, c'est un peu plus compliqué, mais disons que voilà, c'est à peu près le rythme que l'on avait.
Très intéressant, peut-être que ça pourra inspirer d'autres collectivités qui se posent ces questions. Je vois le temps avance, je pense qu'il peut être ça pourrait être bien de se donner un petit peu de temps pour souffler. Je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Who Are You Loutra Loutra sous licence Creative Commons partage en conditions. On se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles.
Oh Boy, you're taking the wrong road. Do you know how fast it goes? Oh God, are you drunk enough now?
Cause commune 93.1.
With the daylight and your head on fire, now the dream is over. Do you remember? Do you remember? So simple to be. Now learn your books and see it's gone. Oh, it's gonna be.
venons d'écouter Oh Boy par Who Are You Loutra Loutra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
On est donc de retour sur Radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April et j'ai eu le plaisir d'échanger avec Cédric Charpentier et Anaïs Rémy de la direction des systèmes d'information d'Abbeville, une ville qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre. Je précise qu'une fois n'est pas coutume, nous enregistrons ce sujet en avance. Et au moment où je vous parle, nous sommes vendredi 12 mai, il est 10h32. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission, sur causecommune.fm, bouton chat, salon libre à vous, pour échanger avec nous sur ce sujet passionnant. Alors avant la pause musicale, nous avons évoqué l'historique du logiciel libre et de son arrivée au sein de la collectivité, aussi la question des usages un peu internes et de la formation des agents. On a parlé des territoires, du label territoire numérique libre, qui est ce label créé qui est ce label qui récompense les collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre, leur attribuant un niveau allant de 1 à 5, 5 étant le plus fort, et Abbeville a été la première collectivité à atteindre ce niveau 5. Et vous nous parliez dans ce cadre de projets tournés vers les habitants et les habitantes. Et en tant que membre du jury, moi je représente, j'ai l'honneur de représenter l'April au jury du label Territoire Numérique Libre. Il y a effectivement ce projet que vous avez mis en avant, que vous allez nous décrire, et qui est vraiment très très intéressant et assez unique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cédric ? Je pense que j'ai pas besoin de dire plus, vous savez très bien de quoi je parle.
Ouais, bon, alors donc on va vous parler là de notre projet phare. C'est le projet qui finalement fait découvrir la DSI à nos élus, à nos administrés, peut-être à la DULAC. En fait, je vais vous refaire simplement un historique de notre participation au label Territoire Numérique.
Je vais reprendre le suspense. Ça s'appelle le jardin connecté. Donc ça crée un peu de suspense, mais on parle d'un jardin connecté mis en place par la ville. Mais je vous rends la parole, excusez-moi.
Ouais, c'est exactement ça. Bon, par contre, je vais juste vous corriger. En fait, nous, Ville d'Abbeville, on n'est pas la première ville à obtenir le label niveau 5. C'est pas nous, hein. Par contre, nous, on est la première ville à l'avoir obtenu deux fois de suite. D'accord?
Merci de me corriger. J'ai mal fait mes devoirs. Merci de me corriger.
Je suis désolé, c'est juste. Non, mais c'est bien. Il faut le rendre à la collectivité. De mémoire, c'était Nancy qui l'avait eu. Donc,
Absolument, c'était Nancy, ouais. Tout à fait. Merci de me corriger.
Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Bon, allez, je reviens sur le thème. Donc, du coup, nous, on se présente il y a 4 ans au label Territoire Numérique Libre, où on obtient le niveau 4 sur 5. Donc, pas mal pour une première participation. On nous dit, vous connaissez pas, mais vous arrivez là comme ça, c'est vraiment super. Vous êtes déjà à fond dedans. On participe une deuxième année. On obtient de nouveau le niveau 4 et on nous donne le coup de cœur du jury. Et alors évidemment, bon, c'est pas de la prétention là, mais à Ville, on sait qu'on fait du logiciel libre et qu'on en fait vraiment beaucoup. Donc, on se demande pourquoi on n'arrive pas à décrocher ce fameux niveau 5. Donc, on s'adresse à la DULAC. La DULAC nous répond « Oui, on peut pas, on vous a pas donné le niveau 5 parce que vous avez un petit souci. En fait, vous faites du libre, mais on n'en entend pas parler. Vous n'en parlez pas. On a regardé sur vos sites internet, on a regardé sur vos réseaux sociaux, etc. » Et nulle part, il est fait référence à cette histoire de logiciel libre. Donc, nous, on s'est dit, mince, comment faire pour parler d'informatique et de logiciel libre à nos administrés? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens vers ce domaine-là? Parce que c'est quand même pas un truc facile à vendre. On sort du Covid. Moi, la chose que je sais, c'est que les gens font beaucoup de jardinage, les gens se sont remis à la terre, tout le monde est redevenu sage, tout le monde est redevenu. Donc, on se dit, c'est bien facile. Nous, on va faire un projet qui va permettre de vendre du libre avec un autre vecteur. Donc, on a créé un jardin qui s'appelle le jardin connecté, dans lequel, en fait, on fait de la culture assistée par ordinateur. C'est-à-dire que dans notre parc, vous allez trouver des arrosages automatiques. Vous allez trouver des machines qui sont capables de vous proposer de la lumière s'il n'y a pas assez de lumière. Et tout ça, c'est fait grâce à du matériel qui est open source. OK? Donc là, pour les spécialistes, on va parler d'Arduino. Nous, on utilise pas mal d'Arduino. Ce sont des petites cartes contrôleurs, on va dire des petits ordinateurs. Et ça, c'est du matériel open source. On a ajouté en plus de ça une dimension logicielle, puisque pour faire fonctionner ces matériels-là, il nous faut donc des logiciels. Donc, on a ajouté les logiciels libres. Et puis, on est allé un petit peu plus loin. C'est que nous, on s'est dit, en fait, il y a une analogie que l'on peut faire entre le monde de la culture et le monde informatique, c'est la graine open source. Il faut savoir aujourd'hui que, alors il y a des grands laboratoires, alors là c'est pareil, hein, je ne fais pas la guerre, mais je dis simplement qu'aujourd'hui il y a des grands laboratoires qui ont mis la main sur le monde vivant. Et nous, ce que l'on voulait montrer, c'est qu'il existe sur la planète et en particulier en France, il existe des associations et des entreprises qui aujourd'hui ont décidé de recultiver, mais avec des graines open source, c'est-à-dire des graines qui ne sont pas qui sont sans brevet. Et ça va même plus loin, en fait, parce que c'est là où ça ressemble vraiment étrangement au logiciel libre et ça ressemble au fork que l'on peut trouver dans le monde du logiciel.
Il faut repriser ce qu'un fork, en gros, c'est sur un développement logiciel libre. Les sources étant libres, on peut partir faire un embranchement, faire un autre développement logiciel en partant d'une source commune. Voilà, c'est ça qui permet de faire un fork, c'est des embranchements dans les développements.
Voilà, c'est un petit peu ça. Et quand on parle de logiciel propriétaire, et ben en fait, le logiciel propriétaire, il est lié à son propriétaire, et à partir de là, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut savoir que dans le monde de la graine, hein, il existe des variétés dites F1. Donc, c'est des variétés hybrides. Alors, les variétés hybrides de graines, ça existe dans la nature. La nature, elle sait modifier les
génomes.
Ouais, c'est ça. Elle s'est modifiée. On va dire ces plantes avec le temps parce que le temps a changé, parce que la graine s'est envolée et elle est allée se planter ailleurs dans un milieu qui n'était pas le même. Bon, bah, donc c'est ça. Et les industriels, eux, ils ont trouvé mieux que ça. Eux, ils ont créé des graines hybrides qui font que vous leur achetez des graines, vous les plantez, vous récoltez vos légumes, mais surtout vous ne pouvez pas replanter ce que vous avez semé, en fait, d'accord? C'est-à-dire que si je prends par exemple une tomate, impossible ou difficile de replanter une tomate à partir des tomates que vous avez eues en variété hybride, d'accord?
On parlait de location et de licence, on en est en fait exactement à la même logique, et ça paraît d'autant plus délétère lorsqu'on parle du vivant, mais c'est intéressant en fait, quand je vois que vous êtes un libriste et vous parlez avec la même conviction des semences libres, et on voit à quel point tout ça, toutes ces questions et cette éthique est transversale, je trouve ça très intéressant.
Voilà, et donc on s'aperçoit que finalement le vecteur, eh ben on l'avait trouvé. Donc nous, on a fait un parc, alors... On a de la chance, en fait, là où la DSI se trouve, on a un parc d'environ, je sais pas, 1500-2000 mètres carrés qui n'était pas du tout mis en valeur. Et donc, on a fait un espèce de parcours où on va apprendre. Alors, en fait, c'est un parcours intergénérationnel, je vais vous dire. Parce que souvent, papy, mamie font du jardinage et le petit-fils ou la petite-fille font de l'informatique. Et quand on rentre dans ce parc-là, et ça nous arrive très souvent, hein, on a deux générations comme ça qui viennent et on a alterné des ateliers. C'est-à-dire que quand vous rentrez, alors vous avez une première explication du pourquoi on a fait ce parc, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Et puis ensuite, on va commencer par montrer les outils du jardinier, d'accord? C'est-à-dire que là, sur des panneaux qui sont affichés, ben, vous allez retrouver, ce sont des vrais outils, hein, ce sont pas des photos ni quoi que ce soit. On va retrouver un râteau qui est fixé sur un panneau, on va retrouver une binette, on va retrouver une bêche, on va retrouver une fourche, on va retrouver, voilà, tous ces outils-là. Et on va retrouver un outil qui est lié, par exemple, à la ville, qui est ce qu'on appelle un arrache betterave. En fait, on a, dans notre ville, on a perdu une sucrerie qui faisait énormément de bénéfices, d'accord? Et pourtant, cette sucrerie-là, qui faisait vivre la ville, eh bien, elle est partie, d'accord? Et là, si vous avez assez de finesse pour comprendre, en fait, ce que l'on veut dire, c'est que l'argent, en fait, ça fait pas tout. On a beau faire des bénéfices, aujourd'hui, ces sociétés-là, elles ont beau faire des bénéfices, elles peuvent se sauver ou elles peuvent partir, entre guillemets, avec leur brevet, avec leur... vous voyez où je veux en venir ?
Oui, il me semble, oui, c'est cohérent dans l'histoire que vous nous racontez.
Voilà, donc déjà là, en fait, quand on fait ce petit clin d'œil, eh ben, vous avez déjà les personnes âgées qui connaissent bien notre ville, ben, voilà, elles ont adhéré, en fait. Là, on les a déjà en partie conquis parce qu'elles se disent, c'est bizarre, en fait, j'étais venu parler d'informatique, et on ne sait pas, on commence pas par là, on fait pas ça. Donc, ça, c'est le premier atelier, parce qu'on a appelé ça des ateliers. À l'atelier suivant, vous allez trouver les outils de l'informaticien. Donc, dans des bocaux, symboliquement, on a enfermé dans des bocaux qui sont pareils, accrochés sur des panneaux. On a enfermé des Raspberry, on a enfermé des détecteurs d'humidité, des détecteurs d'hygrométrie, on a enfermé des caméras, on a enfermé des relais qui permettent de mettre en route des appareils qui fonctionnent sur le 220. Voilà, on a enfermé tous les composants que l'on va utiliser sur le parc. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à expliquer aux gens, ben voilà, n'ayez pas peur d'informatique. C'est comme ça, vous allez voir, nous, on va vous montrer des choses un petit peu étranges. Donc ça, c'est le deuxième atelier. Vient ensuite un autre atelier où cette fois-ci, on a mis en parallèle, c'est l'atelier météo. Donc, on a mis en parallèle, on a accroché un thermomètre, un baromètre, un hygromètre. Et puis, à côté, on a mis un écran connecté sur la météo agricole. Et on dit aux gens, ben voilà, c'est à vous de voir. Soit vous allez vous connecter sur la météo agricole qui est un service quand même numérique, ou soit, ben, de façon traditionnelle, vous allez utiliser le baromètre, par exemple. Alors, on a par exemple fabriqué un baromètre avec un pot à confiture, un petit ballon de baudruche et une petite baguette. Ça, c'est pareil. En fait, on a fait le parc de façon à ce que les gens puissent refaire tout ce que l'on a fait dans notre parc. OK ?
Du coup, ça rend accessible, ça rend matériellement, on s'accapare les outils, on se rend compte avec ce côté, ce qu'on appelle le do it yourself, faites-le vous-même. Je trouve ça rend tangible ce qui est souvent l'informatique, et c'est derrière des écrans et c'est un peu magique. Et j'ai l'impression que ça permet de rendre plus tangible les outils et comment ça peut s'inscrire dans nos quotidiens.
Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, l'atelier suivant, on a créé un hologramme. On a fait un hologramme dans lequel, de façon peut-être assez poétique, mais surtout de façon très philosophique, on explique aux gens pourquoi on a fait ce parc. On leur explique aussi, à ce moment-là, ben, ce que c'est qu'une graine open source, et on leur explique en parallèle ce que c'est qu'un logiciel open source. On leur explique aussi parce qu'on voulait faire passer plusieurs messages dans ce parc-là, on leur explique aussi que notre terre, elle est très fragile, qu'il faut y faire très attention, que on est peut-être parti dans un mauvais sens et que c'est pas nous, Ville d'Abbeville, qui allons révolutionner le monde, mais peut-être que si chacun fait un effort, eh ben, on arrivera peut-être à retrouver quelque chose de normal. Okay ? Vient ensuite un atelier où, cette fois-ci, on montre aux gens comment on produit nous-mêmes nos graines. C'est-à-dire que on a une petite grainothèque dans laquelle on a accroché des radis qu'on a laissé monter en graines. Voilà, donc pour celui qui connaît le principe. Donc, on a planté nos radis, on les a laissés pousser, sans jamais les arracher. Ça a donné des petites fleurs. Ces petites fleurs-là, elles se sont transformées et on en récupère ici les graines. Alors ici, moi, ce que je veux faire passer, c'est pareil, hein, c'est comme dans le monde du libre. Je veux faire passer le côté social. Je dis aux gens, vous savez, jardiner. On peut croire que c'est quelque chose qui coûte cher parce que un paquet de graines, ça va coûter 3,40€, 3,50€ quand on achète des graines comme ça. Seulement, c'est un premier investissement que vous faites. Et à partir de là, quand vous aurez planté une graine de radis qui vous en donnera 50, eh ben, ça ne vous coûtera plus rien, en fait. Et mieux encore, vous pourrez échanger ces graines-là avec d'autres personnes qui auront, elles, produit d'autres choses, qui auront fait des graines de tomates, qui auront fait des graines de poireaux, qui auront fait... Et j'aime bien ce côté social, en fait. Je me dis, jardiner, on pourrait croire que c'est cher, et ben non, ça l'est pas.
Et du coup, en fait, vous dites plein de choses intéressantes et je vois plein de ponts avec le logiciel libre à faire, parce que vous parlez effectivement de ce côté social. Le logiciel libre est profondément social, il se construit sur des communautés. On sait que la mutualisation, peut-être qu'on pourrait en dire un mot, est-ce que vous mutualisez avec d'autres collectivités ? Cette mutualisation par le partage est essentielle quand on parle de logiciel libre. Et c'est ce pont est du coup très intéressant. Et quel est le retour que vous avez des habitants et des habitantes sur ce jardin connecté ? Un enthousiasme, les gens reviennent, ils viennent de loin d'ailleurs, est-ce que c'est que des habitants d'Abbeville ou est-ce que des personnes viennent voir de l'extérieur ? Vous avez une vision de ça ?
Alors déjà, le parc, il faut savoir qu'il est libre, parce qu'il faut qu'il soit sur la même philosophie que ce que l'on veut vendre. C'est-à-dire que à l'entrée de ce parc-là, vous avez des explications qui vous disent, ben voilà, ce parc, il est là pour vous, il est libre. Si vous voulez en faire une visite libre, faites-le vous-même, puisque vous avez des explications sur l'ensemble des ateliers. Par contre, si vous voulez échanger avec nous, on a 1000 numéros de téléphone du service, et dans la mesure du possible, hein, quand on est présent, on va faire une visite libre où on invite les gens à revenir à une date, à une heure qu'on leur précise, et on refait ensemble le tour de ce parc. Alors il faut savoir que le tour de ce parc-là, il se fait en une heure, un quart, une heure et demie, tellement les échanges entre les gens et nous peuvent être super intéressants et je dirais même super passionnants. En fait, moi, j'ai appris énormément de choses dans ce parc parce que on a eu des anciens, on a eu des gens qui viennent nous donner leurs petites combines, qui viennent nous expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. On a eu des gens qui sont ressortis en nous disant « mais c'est complètement débile ce que vous avez fait hein. ». Tu te souviens, Naïs, on a eu ces gens-là avec qui, en fait, on a refait un tour en visite guidée et qui, à la fin, nous ont dit « vous savez, en fait, on n'a rien compris, on vous présente nos excuses, tellement ce que vous avez fait est génial ».
Quoi, le contact humain. Donc en tout cas, on invite les gens. Donc l'entrée est un accès libre et on peut prendre rendez-vous pour des visites guidées. Si je dois résumer,
ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis ben, quand vous dites, est-ce que ça concerne que les Abbevillois? Non, parce qu'on a eu des gens, on a des gens qui sont là en vacances et qui viennent voir. On a même eu des visites extrêmement amusantes parce que on est tombé sur, par exemple, un jeune couple d'Allemands qui parlait anglais à qui on était obligé de faire la visite. Voilà, c'était très amusant parce qu'on se comprenait pas forcément très très bien, mais au final, on a fini par se comprendre parce que voilà, c'est la façon dont on voyait les choses, elle était identique de chaque côté. Et j'avoue que par exemple cette visite-là me garde, enfin, j'en garde un excellent souvenir.
La richesse des échanges. Je vois que le temps file et j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on se tourne vers le mot de la fin. Je pense que j'ai parlé de mutualisation, vous avez parlé du côté social, que ce soit du jardinage, du logiciel libre, en fait, de toutes les activités humaines, si on y pense. Est-ce que vous avez des pratiques de mutualisation avec d'autres collectivités? Et une question qui me semble très liée, est-ce que vous contribuer à des logiciels libres ou l'UCI que vous utilisez. Alors on rappelle, hein, vous êtes Abbeville, c'est 22 000 habitants, on imagine que vous êtes une DSI, une direction des systèmes d'information de petite taille, donc vous n'avez pas forcément les ressources pour beaucoup contribuer, mais est-ce que vous le faites ou est-ce que c'est dans vos objectifs?
Alors, il y a plusieurs choses. En fait, la ville, elle a par exemple en charge l'informatique du CCAS. Donc là, c'est pareil, les pratiques mises en
du
place...
CCAS, pardon, je suis pas familier de l'acronyme.
En fait, c'est le centre communal d'action sociale, c'est-à-dire que d'accord. C'est un établissement qui va aider les gens en difficulté en particulier. Donc, cet établissement-là on apporte notre soutien technique, eh ben c'est pareil. On a essayé de leur faire passer nos pratiques et on a essayé de faire du logiciel libre là-bas. Et pour moi, ben, le côté social, il est encore plus important là-bas puisque on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément d'argent. Donc peut-être que pour eux, le libre, c'est quelque chose de bien. Donc c'est une première chose. Après, il faut savoir que la ville d'Abbeville, elle fait partie d'une communauté d'agglomération. On est la ville la plus importante de la communauté d'agglomération, mais c'est des décisions politiques, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que la communauté d'agglomération, elle, malheureusement, elle a pas pris ce virage du logiciel libre. Chacun son choix, chacun ses idées, ça, par contre, c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu dommage. Concernant notre participation au libre, alors oui. En effet, on a développé deux, trois petites choses que l'on est prêt à mettre à disposition, qui sont pas forcément parfaites, mais on a eu par exemple pendant 2 ans une apprentie en développement à qui on avait demandé de faire une application pour gérer la foire de la ville. Voilà, c'est pas une application très très importante, mais disons que ça peut aider d'autres à gérer. Ça pourrait presque même aider à faire de la gestion de brocante finalement. Hein. On pourrait presque aller jusque là, Anaïs, hein, puisque ce sont des ce sont des emplacements que l'on loue et puis il y a une comptabilité, voilà. Donc ça, par exemple, on a fait ça. Et puis, c'est à peu près tout. Comme vous le dites, on a une petite structure.
Après, c'est la beauté aussi du libre, c'est-à-dire que vous développez des choses. On ne sait pas la créativité des autres personnes, ce qu'ils pourront imaginer et rajouter par rapport à ce qu'on a fait. On peut penser que c'est une petite chose, et en fait, c'est une graine qui peut pousser et produire plein d'autres très belles choses. J'aimerais maintenant vous proposer le mot de la fin. Alors, j'aimerais qu'on puisse continuer à discuter plus longtemps, mais le temps de la radio étant de fait contraint, il faut que malheureusement nous concluions notre échange. Voilà, en 2 minutes, ou en 1 minute, et on descend pas trop dépasser, mais disons même, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui ont écouté notre échange retiennent ?
Eh ben, c'est difficile. Alors, déjà pour les collectivités qui nous écoutent, je dirais que si comme nous en fait vous avez du mal à le vendre cette histoire de libre, commencez déjà par participer à ce fameux label Territoire Numérique Libre. En plus, c'est un espace d'échange fabuleux. Le jour de la remise des labels, je vous dirais que c'est quelque chose d'assez amusant. On se croirait presque aux Oscars. On est, on a l'impression d'être les stars du jour. Et donc ça c'est super amusant. Après pour le reste, pour ceux qui ont des difficultés à faire passer ce message ou qui font des marches arrière, parce qu'on en voit aussi des marches arrière dans le monde du libre, je leur dis bon courage et je sais pas, c'est peut-être ce que vous pouvez pour revenir dans ce monde qui est open, qui est libre, qui est merveilleux, qui vous fait vivre plein de belles choses. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on se fera un super plaisir d'échanger avec vous. Voilà.
Merci beaucoup. Anaïs, alors c'est vrai que vous, on rappelle, hein, vous êtes plutôt administratif, vous occupez de l'administration plutôt au sein de la DSI, hein, de l'administration dans le sens premier du terme. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à des personnes qui n'ont pas ce parcours informatique, comme c'est votre cas, qui découvrent le logiciel libre, qui peuvent avoir une appréhension, et visiblement vous avez été convaincu, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre ?
Pour les convaincre, quand déjà moi je connaissais pas du tout, hein, donc déjà quand on a quelqu'un à côté de nous qui est très pédagogue et qui, puisque Cédric quand il explique, on voit qu'il est passionné par ce qu'il fait et surtout par les logiciels libres, donc ça passe très très bien.
Ça passe par l'humain, en fait, si j'entends bien
c'est
ce que vous dites.
C'est ça.
Entendu. En tout cas, à nouveau, un grand merci à tous les deux d'avoir contribué, d'avoir participé à cet échange, d'avoir participé à Libre à vous. Et puis, un grand merci pour tout ce que vous faites pour le logiciel libre au sein de la collectivité d'Abbeville. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Cédric Charpentier, donc Anaïs Rémy. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour la remise des labels Territoire Numérique Libre. En tout cas, un grand merci à nouveau. Bonne journée.
Merci à vous.
Excellente journée.
De retour en direct sur Cause Commune, la voie des possibles. J'espère que cet échange sur la politique et les actions d'Abbeville en faveur du logiciel libre, un échange enregistré vendredi 12 mai, vous aura intéressé. J'aurai quant à moi eu beaucoup de plaisir à l'animer. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Nous avons besoin d'aide un mardi après-midi par mois de septembre à juin sur Paris 18e pour assurer la réalisation du direct de notre émission de radio. Même si vous n'avez aucune expérience de la radio, n'hésitez pas à nous contacter et l'équipe vous accueillera et on sera ravis de vous former et de vous accompagner à l'appréhension de ces outils. Magali Garnero, présidente de l'April, continue son tour des GUL. GUL, c'est les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices des logiciels libres. Rendez-vous au Mans le dimanche 21 mai entre 11h et 13h au festival Écoparc Zéro Déchet d'Écomois. Le 24 mai 2023 à Lyon, cette fois-ci, l'April tiendra un stand aux rencontres professionnelles du logiciel libre. N'hésitez pas à passer nous voir. Les 2, 3 et 4 juin, au château de Selles-sur-Cher, se tiendront les festivals Geek Fairies. Comme on peut lire sur leur site, on y vient en costume pour y vivre en immersion 2 jours et 2 nuits. C'est un temps de fête, de jeux, d'échanges et de retrouvailles. On y célèbre la philosophie hacker qui, quoi qu'en dise, ceux qui n'y connaissent rien, signifie partout dans le monde tout ce qui consiste à détourner, bidouiller, réinventer les choses et les idées au service de l'imagination et de l'innovation. L'April y tiendra un stand également dans le village associatif. Je profite de ces annonces de fin pour rappeler la sortie du jeu vidéo développé par notre ami J, qui en plus a fait une chronique sur les événements libristes tels que les Geek Ferries, même si le libre n'est pas le cœur du festival, il en fait partie, et avec qui donc, on a échangé en début d'émission. On avait oublié de parler du prix du jeu, donc le jeu sera disponible notamment sur les plateformes Steam et iOS, comme J nous l'a précisé, et il sera vendu à 15€. Je vous invite, comme à chaque fois, à consulter le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour retrouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui font vivre nos communautés. Notre émission se termine, comme vous pouvez l'entendre au jingle. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, J, Cédric Charpentier, Anaïs Rémy, aux manettes de la régie, Isabella Vanni, accompagnée de notre nouvelle recrue en formation Bouquinette. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, ainsi que Julien Haussmann, bénévole Jossman, Julien Haussmann, pour prononcer correctement son nom, ils sont tous quatre bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous dire, faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 23 mai à 15h30. Nous vous proposons un nouveau parcours libriste et notre invité à l'occasion sera Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 23 mai et d'ici là, portez-vous bien.